je comprends tout à fait qu'une liste d'ingrédients soit compliquée à lire quand on ne les connaît pas. Par contre, il faut bien se dire que le but de la nomenclature INCI, c'est que dans tous les pays qui l'adoptent, les ingrédients aient le même nom. Le même ingrédient ait le même nom. C'est, à la base, c'était vraiment pensé pour les gens qui étaient allergiques, pour qu'ils puissent, s'ils étaient allergiques à un ingrédient donné, repérer cet ingrédient dans les autres listes d'ingrédients dans les autres pays.
Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de mon interview avec Marie Délinger. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à écouter d'abord la première partie, où Marie explique pas mal de choses sur la réglementation cosmétique et répond à plusieurs questions sur l'usage de certains produits, les dates de péremption ou encore quelques problématiques de peau. Dans cette seconde partie, on parle DIY, nom d'ingrédients qui se terminent en N et acide hyaluronique, entre autres. Je suis certaine que vous apprendrez encore pas mal de choses dans ce nouvel épisode. Alors un grand merci pour leurs questions à Milly, Julie, Jade, Claire, Carole, Ninoc et Sophie. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Alors, une question de Milly. Quelle est la molécule qui se cache derrière tous les noms qui se terminent en N ?
Alors là, c'est pas une molécule, parce que sinon elle ferait quand même beaucoup de choses. C'est une fonction, c'est une caractéristique chimique. C'est-à-dire que quand ça se termine en N, ça veut dire qu'il y a, alors ça va être un peu technique, mais une double liaison entre deux carbones, et c'est ce qu'on appelle des molécules insaturées. Okay. Parce que ça veut dire qu'elles peuvent, on peut en fait, c'est un peu comme toutes ces huiles. Alors souvent, voilà, en molécules insaturées, on parle des huiles, tu vois, tout ce qui est huile végétale, etc. C'est souvent des molécules insaturées, c'est ce qui en fait l'intérêt. Alimentaire, mais globalement, en N, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être polystyrène, polybutène, squalène. Donc, en fait, ce N, ça signifie juste qu'il y a quelque part une liaison entre deux carbones, une double liaison insaturée. C'est tout. Mais c'est pour ça que cette question, elle est intéressante parce que ça montre que les listes d'ingrédients sont quand même souvent assez obscures. Pour les consommateurs, parce qu'effectivement, là, je sens que Milly essaye de se raccrocher à un point commun du nom d'ingrédients pour arriver à donner du sens et à donner une caractéristique commune, ce qui, là, pour le coup, n'est pas possible, parce qu'on a, même si, enfin, entre deux molécules avec une liaison insaturée, ça peut être des choses très, très différentes. Donc, voilà, donc j'entends bien que souvent on me dit « Ah oui, bah si on n'est pas chimiste, on peut pas lire la liste des ingrédients, etc. » Donc là, il y a beaucoup de marques qui font cet effort-là de vulgariser la liste d'ingrédients, puisqu'il faut savoir que là encore, la liste d'ingrédients en Europe, on peut pas la faire n'importe comment, puisqu'elle est censée suivre, elle doit suivre ce qu'on appelle la nomenclature INCI. INCI, c'est International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Alors, vous excuserez mon accent pas terrible, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué en anglais. Et en fait, cette nomenclature-là, elle n'est pas appliquée dans tous les pays. Elle est appliquée en Europe, elle est appliquée aux États-Unis et elle est appliquée au Japon. Et il y a pas mal de pays qui ne l'appliquent pas. C'est pour ça que parfois, sur les cosmétiques asiatiques, on a des trucs un peu bizarres qui ne correspondent pas trop. Enfin, des extraits avec des pourcentages monstrueux. Alors qu'en fait, c'est pas si monstrueux que ça. Quand
tout
on
s'explique. D'accord.
Voilà. Mais cette et il faut bien se dire que même, je comprends tout à fait qu'une liste d'ingrédients soit compliquée à lire quand on ne les connaît pas. Par contre, il faut bien se dire que le but de la nomenclature INCI, c'est que dans tous les pays qui l'adoptent, les ingrédients aient le même nom. Le même ingrédient aient le même nom. C'est, à la base, c'était vraiment pensé pour les gens qui étaient allergiques, pour qu'ils puissent, s'ils étaient allergiques à un ingrédient donné, repérer cet ingrédient dans les autres listes d'ingrédients dans les autres pays. Donc c'est vraiment à la base je comprends que ce soit des noms un peu à coucher dehors les listes INCI, à la base il faut bien se dire que ça vient d'une bonne volonté d'uniformisation et de en gros de parler le même langage cosmétique. Mais effectivement il y a un gros boulot après c'est pas on en revient toujours au même sujet c'est aux marques aussi de vulgariser leur liste
d'ingrédients, bien sûr
de communiquer et d'expliquer ce que sont ces ingrédients là.
Alors justement, en parlant de réglementation, Julie demande comment se structure la réglementation sur les produits DIY.
Alors,
c'est
un sujet un petit peu. Alors, c'est un peu moins touchy en ce moment que ça l'a été il y a quelques années, parce que c'est rigolo, parce que ça a été le sujet d'un de mes mémoires de master.
Ah oui,
la réglementation sur les produits homemade, parce que globalement, c'est une espèce de un peu de flou réglementaire, parce que globalement, les gens vont acheter des ingrédients cosmétiques. Et faire leurs produits eux-mêmes. Donc après, du moment que le produit n'est pas cédé à titre onéreux ou gracieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné ou vendu, parce que ce qui constitue en fait une mise sur le marché, globalement, j'ai envie de dire, les gens peuvent faire les recettes qu'ils veulent et se tartiner le visage avec ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment une responsabilité personnelle. Par contre, il y a quand même une responsabilité des vendeurs. Parce que c'est en fait tout ça qui est un petit peu flou, c'est-à-dire que les vendeurs vous vendent en fait des matières premières et parfois c'est étiqueté plutôt comme des cosmétiques. Enfin, il y a une espèce de réglementaire à ce niveau-là. Moi, je me souviens très bien pendant mon master, on avait commandé à divers fournisseurs avec des copines qui faisaient le mémoire avec moi. Moi, j'avais réussi à commander de l'oxyde de zinc qui est arrivé dans un sachet, dans un paquet. Je me suis dit, c'est super, si le facteur fait tomber le paquet, il se fait un rail d'oxyde de zinc, il n'a rien demandé à personne. C'était pas sécurisé, c'était pas étiqueté correctement comme une matière première cosmétique. C'était un petit peu n'importe quoi. Faut savoir que justement cette année-là, l'année d'après, il y a eu une grosse campagne de la NSM auprès de ses fournisseurs de matières premières pour le do it yourself. Je pense que ça a été bien recadré parce qu'ils n'étaient pas contents du tout. parce que justement, c'était un petit peu n'importe quoi. Et maintenant, la NSM part du principe que si tu vas sur un site internet, que tu cliques et que ça te met tous les ingrédients dans ton panier, ça c'est considéré comme un kit et une formule. Et que le fournisseur doit pouvoir fournir toute la documentation, incluant une évaluation de sécurité, comme pour un produit cosmétique fini.
Okay.
Et c'est surtout l'évaluation de la sécurité qui importait pour la NSM, parce que voilà. Après, effectivement, la problématique, c'est que si tu achètes des produits à droite à gauche et que tu suis une recette que tu as trouvée au milieu sur Internet, là, c'est difficile. Enfin, réglementairement.
C'est compliqué, bien sûr.
Il y a une espèce de flou.
Il y a une espèce de flou.
Voilà, qui fait que, les gens sont responsables aussi de ce qu'ils font et de ce qu'ils se mettent sur la peau. Là où ça se complique, c'est quand il y a des gens qui se servent de ça et qui les revendent sur les marques, etc. Voilà. Là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, pour le coup, c'est hors les clous.
Ouais, exact. Alors, une question de Jade. Les copper peptides font-ils vraiment pousser le duvet sur le visage? C'est très, très ciblé.
Ouais. En fait, c'est une question. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui tourne aussi chez les skinfluencers sur Instagram, pas mal. Les peptides, c'est assez à la mode en ce moment.
Ouais.
Et le copper peptide, c'est donc un peptide avec du cuivre. Et il y a des skinfluencers qui ont fait remonter que appliquer assez régulièrement, quand on avait, chez les personnes qui étaient prédisposées à avoir des problématiques de poils, poils sur le visage, ça pouvait stimuler.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que c'est le copper peptide, il a été justement, il y a eu des études sur comme stimulant pour les cheveux, pour la pousse des cheveux.
D'accord,
Donc effectivement, le copper peptide a montré une activité qui stimule la pousse des cheveux. Après, toute la question, c'est le dosage dans le produit visage. Est-ce que c'est un dosage suffisant pour ? Après, c'est toujours pareil. S'il y a une personne qui remonte ça, il y a un petit peu l'effet loupe après.
Oui.
C'est-à-dire que les personnes qui ont le problème le font remonter et ceux qui l'ont pas disent rien, donc au final.
Voilà. Et cet ingrédient, on peut le retrouver dans quel genre de produit du coup ?
Souvent, c'est des sérums visage parce que justement les peptides sont hyper intéressants pour le côté anti-âge. Enfin, sur, voilà, surtout en tirage, hein, je ne veux pas dire en tirine, mais parce que.
Mais, ça se dit plus.
Pareil, en fait, voilà, sur tout ça. Et typiquement, voilà, on le retrouve. Alors, souvent, c'est facile à voir parce que les produits sont colorés en bleu.
Ouais, d'accord. Okay.
Alors, c'est pas forcément le Copper Peptide qui le colore en bleu.
Non.
La marque le colore en bleu, il y en a typiquement, enfin, si tu veux vraiment une marque, il y en a chez Niode, qui est une des marques des SIEM. Voilà.
Ouais, tout à fait. Et alors, Claire demande pourquoi certains de ces produits peluches.
Alors, voilà, les peluches, c'est une grosse problématique des gens qui mettent plusieurs produits les uns sur les autres. Déjà, je pense que la règle, il y a aussi à avoir, c'est de bien laisser sécher les produits les uns après. Enfin, voilà, de leur laisser un petit peu le temps de se poser sur la peau. Après, souvent…
Combien de temps, tu dirais ?
Quelques minutes, c'est pas…
D'accord. Voilà, c'est pas un quart d'heure, on est d'accord.
Non, voilà, t'as pas besoin… Okay. C'est plus, tu vas juste prendre une gorgée de café plutôt que sortir le chien, tu vois. Donc,
oui, voilà.
Mais souvent, en fait, quand les produits peluches, c'est qu'il y a des incompatibilités de texture. Alors, souvent, on accuse les silicones de faire pelucher. Ouais. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé avec une crème que j'avais fait faire en choisissant un peu les ingrédients, et elle fait pelucher tout ce que j'ai mis en dessous. Mais je pense que c'est parce qu'il y a de la poudre de lait ou de la poudre d'avoine. Mais je pense que voilà, il y a une problématique. C'est une problématique de texture.
Des
textures entre les produits qui ne sont pas compatibles.
Donc, la solution, ce serait effectivement de bien laisser sécher.
Voilà. Voir, et si ça persiste, de switcher les produits. Parce que parfois, il suffit de changer de produit. Tu vois, si c'est sérum hydratant et ta crème de jour, de changer éventuellement de sérum hydratant et ça peluche plus. C'est vraiment une problématique d'incompatibilité de texture.
Ok, d'accord. Alors, Carole, existe-t-il un hydratant autre que l'acide hyaluronique ?
Oui, heureusement.
Oui.
Parce que même s'il est un petit peu vendu partout, l'acide hyaluronique, c'est l'actif star de l'hydratation.
Ouais.
Et je trouve un peu dommage justement qu'on le mette partout et que, je trouve qu'on se repose un petit peu trop sur l'acide hyaluronique.
C'est ça.
Voilà. Mais globalement, dans les hydratants, on va rester pour le coup dans ce qu'on appelle les humectants, c'est-à-dire qui apportent de l'eau à la peau. On a aussi la glycérine, qui est un super humectant, mais qui n'est pas très sexy. Donc, je pense que… Mais voilà, souvent, si je te fais un produit avec de la glycérine et de l'acide hyaluronique, si je teste l'hydratation de mon produit fini, te dire si c'est plutôt l'acide hyaluronique ou la glycérine,
D'accord.
Voilà, on a aussi pas mal de… Il y a l'acide polyglutamique qui commence un peu à faire le tour. Là, on en voit chez Zinkilist. Voilà, globalement, tout ce qui est sucre, en fait, ça va être hydratant.
Ouais.
Tout ce qui est rhamnose, je crois qu'on utilise le mannitol aussi. Enfin, il y a pas mal de choses, finalement, en humectant, autre que l'acide hyaluronique. Moi, c'est vrai que, par contre, moi, j'ai déjà essayé de faire une routine sans acide hyaluronique parce que je voulais voir ce que ça faisait à ma peau. C'est compliqué.
Ouais, d'accord.
Partout. Okay.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'actif star.
Voilà, mais je trouve que… Voilà, de temps en temps, j'aimerais bien aussi qu'on propose d'autres choses, tu vois. Je trouve ça dommage un peu de se reposer en disant « Ah, je fais un sérum hydratant, pouf, je mets de l'acide hyaluronique dedans et merci, au revoir. » J'aime bien quand nos industriels, ils challengent un peu le truc, ils essaient…
Ouais, ils cherchent un peu.
Ils cherchent un peu, quoi.
Après, c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu contraint, notamment par tout ce que les applis, etc.
En plus c'est rigolo avec l'acide hyaluronique parce que il y a parfois des consommateurs qui confondent, tu sais, tous les acides type AHA et acide hyaluronique. J'ai déjà eu des questions. Est-ce que je suis enceinte, je peux mettre de l'acide hyaluronique?
D'accord.
En tout cas, l'acide hyaluronique, ça reste quand même un composant naturel-like, puisque c'est quelque chose qu'on a dans le derme. On a aussi dans le liquide articulaire, enfin on a de l'acide hyaluronique, on en a partout dans le corps. Donc c'est un identique naturel en gros. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois ça me laisse un peu perplexe. Je dis
Je crois que le nom est peut-être un peu.
Voilà, c'est le côté acide en fait.
Un peu flippé, c'est acide. Voilà, c'est ça.
Il y a pas mal d'acides en cosmétique. Ils ne sont pas des AHA, c'est-à-dire sont pas exfoliants.
C'est vrai.
C'est vraiment une autre catégorie.
Exactement. Alors, Ninog qui demande, est-ce que la composition d'un produit peut changer en fonction du site sur lequel il est vendu?
Alors oui, parce que ça, c'est surtout, ça va dépendre en fait du pays dans lequel il est vendu, la plupart du temps, parce que selon les pays, on ne peut pas forcément mettre la même formule sur le marché. Alors, c'est quand même, par contre, là, actuellement, les marques essayent quand même souvent de formuler worldwide, hein, c'est-à-dire de formuler quelque chose qui peut être vendu partout, parce qu'il faut bien se rendre compte que faire une deuxième formule, en fait, on double les coûts de développement du produit. C'est-à-dire qu'on va doubler les tests, on va doubler tout ce qui est voilà, le process réglementaire, l'efficacité. Donc, c'est...
On a intérêt à être sûr d'en vendre plus de 10 000 pour pouvoir amortir.
Et puis, on a surtout effectivement intérêt à optimiser. Alors, des fois, c'est des vrais casse-têtes, hein, parce que avec des réglementations comme celle de la Chine ou qui a son listing d'ingrédients, il faut être sûr que ça colle dedans. Enfin, c'est assez complexe. Hein. Alors, je ne raconte pas quand vous voulez formuler un solaire à vendre dans tous les pays. Là, je suis même pas sûre que ce soit possible, en fait. Voilà, donc c'est assez, donc ça existe. C'est pas le plus fréquent parce que c'est vrai que d'avoir plusieurs formules. Moi, j'en ai une seule en tête d'ailleurs. C'est le Good Jeans de, c'est Sunday Riley, je crois.
Ah ouais, d'accord.
Qui est toujours un sérum exfoliant, qui était au départ à la base d'acide lactique, assez dosé. Et en fait, maintenant, la version qui est vendue en Europe n'est pas la même que celle qui est vendue aux États-Unis.
Ok.
Et aux États-Unis, c'est donc la version initiale à l'acide lactique. Et en Europe, c'est une version à l'acide glycolique.
D'accord.
Donc là, pour le coup, il y a vraiment un produit qui s'appelle pareil, mais qui a deux formules différentes selon le continent.
Ah. Alors justement, petite question de Sophie qui est un peu en lien avec ça. Qui dit, on m'a dit que les solaires américains n'étaient pas top au niveau de la formulation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Alors, c'est vrai que les produits solaires, ça reste en fait les produits les plus complexes à formuler. Parce que c'est très cadré. Alors, typiquement, chez nous, en Europe, on a une des annexes du règlement, ce qu'on appelle une liste positive, c'est-à-dire qu'on a une liste de filtres solaires. Et on ne peut utiliser que cela. Nous, la liste est assez grande. On a quand même assez relativement de choix. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que chez nous, un produit solaire, c'est un cosmétique. Donc, ça, c'est encadré par le règlement cosmétique. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle un OTC. C'est un over-the-counter. C'est en fait un intermédiaire entre le cosmétique et un médicament.
D'accord.
Donc, c'est cadré par les OTC sont cadrés par la FDA. Et typiquement, c'est pour ça que voilà, quand on voit des solaires américains, on voit souvent il y a une petite ligne, une petite case, je sais plus ce qui est marqué, drugs dessus. Et en fait, typiquement, les filtres solaires sont dedans, sont à ce niveau-là.
Ok. D'accord.
C'est pas comme chez nous où ils sont dans la listing key globalement
dans
avec tous les autres ingrédients. C'est vraiment mis en avant et c'est vraiment pour le coup un statut particulier. Et j'avoue que la réglementation américaine c'est pas forcément celle que je maîtrise le mieux, mais globalement c'est aux États-Unis il faut aussi utiliser des filtres solaires qui ont ce qu'on appelle une monographie à la FDA.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a tout un dossier sur ce filtre solaire à la FDA, et il me semble que ils sont un petit peu plus restreints sur le choix des filtres que chez nous.
Il paraît aussi que les filtres qu'ils utilisent sont des vieux filtres et qu'on n'utilise plus du tout en Europe depuis des années.
Alors, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'on utilise quand même encore aussi des filtres qui sont utilisés aux États-Unis. Mais c'est vrai que nous, on a plus de choix. Et eux, la problématique, c'est que comme c'est la FDA qui gère les cosmétiques et les OTC, ça évolue pas énormément. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont coincés avec des filtres. Pas forcément obsolètes parce qu'ils sont toujours efficaces, mais qui peuvent être plus compliqués à formuler. Parce que c'est pour ça que nous, je pense, on arrive en Europe maintenant. Alors, on n'est pas au niveau, parce qu'on est plus cadré qu'eux, on n'arrive pas au niveau des textures des solaires asiatiques, mais on arrive quand même maintenant à avoir des formules fluides, des formules légères, des brumes, des huiles. On a quand même une sur les solaires.
On a un sacré éventail.
Voilà, on a un éventail de formules qui fait que tout le monde peut trouver le solaire qui lui convient. Aux États-Unis, je pense que c'est un petit peu plus complexe.
Merci beaucoup, Marie. C'était génial.
Je t'en prie, Chantal, avec plaisir.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.